Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Eh bien, le 17 juin, parents d'élèves qui vont passer le bac, réjouissez-vous. Les professeurs ne vont pas vous surveiller. Vous allez pouvoir copier comme vous voulez, emprunter comme vous voulez, googliser comme vous voulez. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Non, je plaisante. Mais il y a vraiment feu à la demeure, péril à la demeure, puisque la grève d'un certain nombre de professeurs et de surveillants va être très étendue. Pourquoi ? On va aussi parler de ces enfants de djihadistes qui doivent, paraît-il, rentrer en France. Des djihadistes français doivent être jugés en France, disent certains, et les enfants doivent tous être rapatriés, disent encore certains. De quoi s'agit-il ? Et puis, on va parler d'Emmanuel Macron. À Genève, il a été toujours comme d'habitude, il s'est surpassé lui-même. Nous allons parler de tout ça, de la cagnotte pour Christophe Détinger, le boxeur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et enfin, recevoir Christian Châtillon qui va nous parler de la Corse et de des mafias corses, des aventuriers corses. C'est une histoire passionnante. Comme vous voyez, restez dans tous vos états avec moi et c'est parti.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Le 17 juin prochain, premier jour du baccalauréat, ainsi que l'épreuve écrite de français pour les élèves de première. Eh bien, c'est ce jour-là qu'on choisit un certain nombre de syndicats d'enseignants et de surveillants pour dire, eh ben nous, on sera peut-être là, on sera peut-être pas là, mais on ne surveille pas. On fait une grève de la surveillance. Alors, si les surveillants n'existent pas, tout est permis, on en parle.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés.
Oui, là, Michel Sardou, il ne s'agit pas d'un bac G, il ne s'agit pas d'un lycée poubelle. Il ne s'agit pas d'ambition bon marché, il s'agit effectivement de la généralisation, le bac évidemment, le bac c'est l'épreuve, c'est tout le monde, c'est l'égalité, la fraternité, c'est la porte ouverte. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment au métier ou au chômage, mais en tout cas, c'est l'épreuve incontournable. Eh bien cette fois-ci, plusieurs syndicats, dont le premier syndicat des professeurs du secondaire, SNES-FSU, et puis les autres, CGT et le syndicat national des lycées et collèges, ont décidé de rejoindre cette grève des surveillances. Alors ils disent bien, il ne s'agit pas d'empêcher les gamins et de passer le baccalauréat, on est justement attaché à un bac national, et ils accusent Jean-Michel Blanquer de faire disparaître ce bac. Est-ce que vraiment c'est ce que fait Jean-Michel Blanquer ? On va en parler, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, les parents d'élèves ne sont pas très très contents, mais ils disent comprendre les professeurs. Et en fait, on voudrait non essayer de comprendre, et on a demandé à Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées et collèges, qui est associé à cette grève de surveillance. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Bonjour monsieur. Dites-moi, quand même, grève de surveillance, c'est quand même assez grave. Parce que grève de surveillance, ça veut dire qu'ils vont passer le bac. Mais quelle valeur a ce bac si on peut faire, excusez-moi, mais peut-être n'importe quoi ou n'importe quelle googlisation ou copiage pendant ce passage de l'examen ?
Alors, pour le coup, si jamais il ne devait ne pas y avoir de surveillant, il ne pourrait juste pas passer l'épreuve du tout.
Hein.
On ne peut pas passer l'épreuve de bac sans être surveillé.
Sans surveillance,
donc,
ouais.
De ce point de vue-là, soit il y a des surveillants et il la passe, soit il n'y a pas de surveillants et il ne la passe pas.
Et c'est annulé, oui, je comprends.
Et c'est annulé, tout simplement, ouais. Éventuellement reporté, etc. Oui, oui.
Alors, quelles sont les raisons d'en arriver là?
Il y en a malheureusement pas mal, mais je vais faire rapide.
Oui, non, allez-y.
La première, il y a trois grandes revendications de l'intersyndicale à laquelle participe mon syndicat, le SNALC.
Oui.
La première, c'est la question des rémunérations, qui est prioritaire depuis très très longtemps chez les collègues. On a tous les chiffres aujourd'hui, hein, on est quasiment les moins bien payés d'Europe.
Alors dites-nous, Jean-Rémy Girard, pour que les auditeurs soient, oui, vraiment, et que les Français sachent, combien gagne en moyenne un professeur aujourd'hui ?
C'est difficile de parler de moyenne, ça n'aurait pas de grand sens. Moi, je peux donner deux, trois choses qui permettent de s'y retrouver.
Allez-y.
Un professeur, que ce soit dans le premier degré ou un certifié en collège-lycée, oui, va commencer, après 5 ans d'études et un concours, à l'équivalent de 1,2 SMIC. Voilà, c'est un bac plus 5, hein. c'est un ouais. concours. La plupart des collègues, après 20 ans d'exercice, ils sont pas à 2000 euros. Hein.
Ah, ils sont voilà. à moins de 2000 euros après 20 ans d'exercice.
Oui, alors un peu plus pour les agrégés,
oui,
etc.
Enfin, oui,
mais,
bien sûr, ouais.
Voilà, mais la grande D'accord. majorité, effectivement, n'y sont pas. Ou alors, il faut faire des heures sup qui ne sont pas possibles pour tout le monde, et puis qui sont moins bien payés que les heures normales. Hein. On est quand même le D'accord. seul endroit où leur sup est moins bien payé.
Non, mais quand vous dites 2000 euros, ça dit bien ce que c'est après 20 voilà. ans d'exercice, c'est pas...
Voilà, ça dit quand même bien pour, une fois encore, un bac plus 5, pour un concours, pour un métier qui est de plus en plus difficile. D'ailleurs, on le voit très bien, il y a une crise des recrutements
ouais.
qui est structurelle maintenant hein, dans notre éducation nationale. Et donc, c'est-à-dire que le métier n'attire pas.
Hein. Oui, non, ça c'est vrai qu'on le constate, et on peut savoir pourquoi quand on lit les territoires perdus de la République et d'autres choses. Mais enfin, pour revenir à ce que vous disiez, donc première raison, les rémunérations.
Voilà, et vous parliez. Deuxième... Oui, oui. Pardon, allez-y. Oui.
Non, la deuxième raison, donc.
Oui. La deuxième, c'est toutes les lois qui sont en train de circuler. Il y en oui. a deux hein, qui nous concernent assez directement. Il y a la fameuse loi Blanquer, École de la confiance, celle qui nous indique qu'il faut qu'on soit engagé et exemplaire dès son premier article, et, qui finalement place les personnels de l'éducation nationale dans une sorte de situation d'exception hein, par rapport aux autres fonctionnaires de la fonction publique.
Oui.
C'est-à-dire que nous, on devrait être plus exemplaire ou, je sais pas, plus engagé. Bref, on a quand même un gros souci en ce moment. Hein. Beaucoup de collègues nous le font remonter sur même la liberté hein, d'expression des collègues.
Oui. Ouais.
Sur le fait que, effectivement, vous souvenez sûrement du mouvement Pas de Vague. Hein,
de
l'automne dernier.
Absolument.
Voilà, c'est-à-dire qu'on
vous charge, en fait, que vous assuriez d'abord la paix scolaire et avec vos propres moyens, et puis voilà. Et puis, c'est un peu ça.
Et puis surtout qu'on se plaigne pas trop, y compris en dehors de notre travail. C'est ça aussi, hein, les problèmes qu'on peut avoir. Il y a la loi fonction publique dont on parle très peu, parce qu'elle intéresse pas le grand public, hein, mais qui, enfin, globalement, moi je suis président d'un syndicat, ouais. qui globalement vise à faire quasiment disparaître hein, les organisations syndicales dans la fonction publique, en limitant considérablement leur champ d'action, le travail que nous faisons avec hein, le ministère d'ailleurs, parce que faire muter des enseignants, c'est-à-dire plus de 800 000 personnes, hein, je rappelle, etc., c'est quand même un sacré boulot. Et de ce point de vue-là, le travail syndical, mais le ministère lui-même le reconnaît, hein, est de très très grande qualité pour permettre que le système tourne.
C'est quand même le plus gros bataillon de fonctionnaires de la République.
C'est tout à fait le plus gros bataillon de fonctionnaires de la République, mais on a un gros bataillon d'élèves hein, qui va avec,
absolument.
Effectivement. Et la troisième, effectivement, c'est cette réforme du lycée général technologique et professionnel. On parle assez peu de la voie pro, mais on diminue les horaires des disciplines générales, on veut imposer qu'on travaille sur des chefs-d'œuvre et sur du court enseignement qui n'a pas vraiment de sens pédagogique quand il est imposé comme ça. Et puis, il y a effectivement cette réforme du lycée général technologique. Toutes ces réformes sont là, globalement, pour supprimer des postes. Hein, on le sait tous très bien. Voilà, ils ont commencé, d'ailleurs, à en supprimer chez des professeurs de collège-lycée, alors que les effectifs élèves augmentent hein, dans le même temps.
Bien sûr.
On soit bien d'accord. Donc, on peut difficilement dire que les conditions de travail vont s'améliorer. Et avec, une fois encore, une réforme qui n'était pas forcément sur des mauvaises bases, hein. Nous on a discuté hein, avec le ministère sur ces questions-là, mais qui montre dans la façon dont elle est rédigée aujourd'hui que le dialogue social, globalement, c'est du vent hein, au ministère de l'Éducation nationale.
Dites-moi juste un mot, non, mais est-ce que, à votre avis, cette grève, enfin pour vous, sera largement suivie
extrêmement difficile d'anticiper sur des décisions individuelles, surtout avec une telle charge symbolique. Hein.
Ouais.
Mais on sait qu'il y a un certain nombre d'établissements où la majorité des collègues se sont prononcés pour. Alors ensuite, il y en a sans aucun doute un certain nombre où il n'y aura pas ou très peu de grévistes.
Ouais.
C'est souvent très variable suivant les endroits. On sait que c'est souvent plus suivi dans les endroits où c'est le plus compliqué, hein, dans l'académie de Créteil, par exemple, où généralement c'est beaucoup plus suivi qu'ailleurs, ce genre de choses. Mais si on est là aussi à faire ça, et on sait, comment dire, On sait très bien qu'on ne va pas gagner la bataille de l'opinion publique hein, avec une grève comme ça. On sait très bien
qu'on les parents d'élèves, évidemment, eux, ils veulent que ça passe, et puis voilà, effectivement.
Mais c'est qu'on ne sait plus quoi faire.
Non, mais je comprends.
On sait plus comment dire que ça ne va pas.
Vous savez, la seule chose, moi, quand je vous écoute, et étant extérieur, et ayant fini mes études depuis très longtemps, mais je me dis quelque chose, je me dis que tout ça devrait être mis à la télévision, sur Internet, ailleurs. Tout devrait être mis sur la table, afin que, effectivement, les parents d'élèves, les citoyens, comprennent les enjeux.
Bien sûr.
Et je crois que c'est très, très, très important.
En tout cas, on n'arrête pas à parler du ministre de rémunération, et là, il dit partout dans les médias, on va faire un observatoire de la rémunération des enseignants. Mais le mépris, quand même. C'est-à-dire, je veux dire, on le sait, bon, on l'a observé, la rémunération, le ministère a tous les chiffres dont il a besoin, il a des services qui fonctionnent très bien là-dessus.
Mais vous savez, ils veulent observer, ça fait gagner du temps, ça, l'observatoire, vous voyez.
Voilà, c'est ça. On veut enterrer une réforme, on fait un observatoire.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Girard, et on va suivre tout cela, et on vous redemandera évidemment votre avis. Merci.
La grève des profs, le jour du bac, vous en pensez quoi? Un numéro pour nous le dire, le 0826 300 300, ou alors vos commentaires sur Facebook, où vous pouvez suivre Berkoff dans tous ses états en vidéo.
Sud Radio, André Berkoff.
Ça balance pas mal.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal.
Un chant de djihadiste, un chant combattant. Et on en reparle parce qu'évidemment, il y a un sujet qui occupe, qui préoccupe, qui tient, qui fait évidemment la une des journaux, qui fait les radios, qui fait les télévisions. C'est retour des djihadistes français, c'est-à-dire ceux qui ont été capturés en Syrie et en Irak, et qui ont fait tout ce qu'ils ont fait pendant des années au sein de Daesh, et on sait très 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 bien que les activités de Daesh étaient tout sauf humanistes, et je fais exprès d'employer cela, évidemment, par ironie, et on entend effectivement, lundi dernier, sur RTL, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, dit qu'il faut rapatrier tous les enfants de djihadistes. Déjà, il y a la discussion sur les djihadistes, et il dit il faut rapatrier tous les enfants. Il dit, voilà, c'est une victoire par rapport à ce que cherchaient finalement ces djihadistes, casser en deux nos sociétés et nous faire prendre des mesures qui nous éloignent de nos valeurs. Comme si les djihadistes avaient respecté ces valeurs. Et quand on lui dit, mais 7 Français sur 10 sont opposés au rapatriement des enfants djihadistes, il dit, ben non, la bonne solution, dit le porte-parole de 2LV, d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, c'est de rapatrier tous les enfants. La pire solution, c'est les laisser là-bas et les laisser devenir de nouvelles machines à tuer. Certes, mais je voudrais vous faire entendre un petit document qui circule sur les réseaux sociaux depuis des années, quelques années, et qui a été pris à Raqqa en Syrie, où on voit deux enfants, justement, deux enfants qui ne doivent pas avoir en tout cas moins de 15 ans, 10, 12 ans, etc. Écoutez.
Vas-y. Vite. Plus vite que ça.
Salam
alaikum. T'es qui, toi?
Moi, je suis Sifullah. Toi, t'es qui?
Moi, je suis Aboubar. T'es qui, toi?
C'est
Faba. C'est Faba. Tu viens d'où?
De France.
De France? Ouais, mais d'où France?
Strasbourg, c'est 7, représente.
Ah non, là, wesh, tout Strasbourg, il est ici ou quoi?
Bah, moi, je suis Toulouse, de la Rennerie.
Subhanallah, Toulouse et Strasbourg, vous êtes tous ici.
Ça représente 6-7, mon vieux, ici.
Ouais, hein. Et toi, tu représentes Mohamed Merah.
Ouais, je les représente.
Allahu Akbar. Donne un petit message pour ceux qui sont en France. Comme ça, je la mets sur Facebook, cette vidéo. Ça te dérange si je la mets sur Facebook?
Non.
Vas-y, je vais la mettre sur Facebook. Dis un message pour ceux qui sont en France.
Bon. Déjà, vaut mieux venir ici, car là où vous êtes, vous n'avez pas de chance.
Pourquoi?
Parce que là-bas, vous êtes dans un pays de kufr.
Ouais.
Ici, on est des moudjahid, on est en Syrie.
Ouais.
On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici.
Ouais.
C'est pas les petits bébés qui font la renoi comme ses parents. Oh, moi je veux ça, oh, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Ta pède là.
Méchant frère, faut leur dire de venir gentiment mon frère, parce que sinon, oh viens frère.
Ouais viens, c'est là.
Il est trop méchant ton pote.
Ouais c'est trop méchant. Ouais.
Voilà, effectivement, il dit nous on n'est pas dans un pays de couffards, de mécréants, on est là, et puis nous c'est pas les petits bébés qui demandent à leurs parents, je veux ci, je veux ça, nous on fait la guerre, etc. C'est, je pose la question, évidemment qu'on a envie de préserver les enfants. Qui a envie de laisser sacrifier les enfants? Mais il se passe que quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la religion, qui est de l'ordre d'une idéologie qui s'est emparée, qui prend prétexte de la religion pour faire quelque chose de mortifère et de guerrier. Alors que fait-on? Je crois que la première des choses à faire, c'est d'éviter les raisonnements généraux, de dire voilà, oui, effectivement, nous devons respecter nos valeurs. Mais vous savez, il y a des gens, il faut dire ça aux naïfs, aux gens qui se voilent la face, aux gens qui, comme on dit, comme on fait son déni, on se couche, il faut quand même leur dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les armes de la démocratie pour tuer cette démocratie. N'oublions jamais, ce n'est pas nouveau, ça s'est passé dans l'histoire à plusieurs reprises, on utilise effectivement, on s'infiltre, on voit, on fait, etc. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais moi, quand je vois des gosses comme ça qui disent « Oui, moi je suis Mohamed Merah et compagnie », eh ben, je m'excuse, mais ça me laisse vraiment pensif. Et je ne suis pas le seul. Et quand 7 Français sur 10 expriment leur inquiétude, il ne faut pas les rejeter comme ça d'un revers de main au nom de je ne sais quelle idéologie, soi-disant progressiste, mais en fait une idéologie boboïsante, une idéologie culpabilisée, consentante et, je dirais franchement, un peu masochiste. Donc attention à ce qu'on fait dans ce cas-là. On sait ce qui s'est passé en Syrie, en Irak. Je dirais simplement, attention.
0826 300 300 pour intervenir. Vous pouvez réagir sur ces enfants rapatriés de Syrie ou sur cet appel à faire grève le jour des épreuves du bac de la part de plusieurs syndicats d'enseignants. 0826 300 300. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio. Berkov dans tous ses états.
Eh bien, nous allons parler évidemment du président de la République Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier à la conférence internationale du travail à Genève. Et comme d'habitude, il a brillé. Nous allons aussi parler évidemment de la cagnotte pour Christophe Détinger et ce qui arrive aujourd'hui. Nous allons parler des Landes, d'un dromadaire qui fait beaucoup de choses dans les Landes. Et puis nous allons recevoir Christian Châtillon qui va nous parler des relations corses. Un bouquin absolument passionnant et ça se lit comme un thriller.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi.
C'est exactement, ou presque, ce qu'un certain nombre de Français disent à Emmanuel Macron. Les Républicains en marche disent, mais oui, plus je t'entends, plus je te vois, et puis je t'aime. Et puis les autres disent, oh, tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi. Écoutez, c'est selon. Selon que vous soyez macronien ou pas macronien, selon que vous aimiez le président de la République, ou que vous le trouviez tout à fait à côté de la plaque, mais encore une fois, il est étonnant, Emmanuel Macron, parce que il va à Genève, hein, à Genève pour la conférence internationale du travail. Et là, il dit, on a commis des erreurs fondamentales. Quelles erreurs fondamentales, oui. On a eu une crise très dure, il parlait évidemment des Gilets jaunes, et il a considéré qu'il avait en France des sachants et des subissants. C'est très joli, ça, sachant et subissant. Et il dit, voilà, on a trop considéré les sachants et on ne s'est pas assez occupé des subissants. C'est une erreur fondamentale. Il n'y a pas les sachants d'un côté et les subissants de l'autre. Il y a un peuple français. Mais vous voyez que la sagesse arrive toujours, que l'esprit non seulement arrive aux jeunes filles, mais arrive aux présidents fringants. C'est très très bien. Il dit, notre responsabilité collective, c'est de transformer notre manière de faire de la façon la plus intime. Mais il ajoute aussi, dans cette même conférence de l'Organisation internationale du travail, le capitalisme est devenu fou. Attendez, là j'arrête. Oh là. Là, je me gratte la tête.
Et il a chanté l'international ?
Non, il n'est pas allé jusque-là, il n'a pas fait le point levé. Mais enfin, que Emmanuel Macron dise « le capitalisme est devenu fou » alors qu'on sait très 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 bien d'où il vient, et ce n'est pas du tout honteux, loin de là. C'est très étonnant quand même, il est tout à fait étonnant, et puis il ajoute « on va vers une crise très grave », etc. C'est-à-dire qu'il y a Macron qui rit, Macron qui pleure, Macron qui dit des choses très précises, et l'autre qui se lance dans une diatribe que n'aurait pas désavouer Jean-Luc Mélenchon, avouer qu'il y a de quoi, quand même, s'esbobir, si je peux exprimer cette expression moyenâgeuse.
Il aime beaucoup en plus les expressions anciennes, Emmanuel Macron, sa perlipopette. 0826 300 300.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Oui, mais là, ce n'était pas Dieu, cher Enrico Macias, c'était, vous vous rappelez, de l'épisode du boxeur Christophe Détinger, et on en a parlé ici, Sud Radio, dans Berkov, dans tous ses états, et on a reçu son avocat, on a reçu effectivement des témoins, c'est ce boxeur et qui avait été emprisonné après avoir boxé des CRS, et il s'est retrouvé effectivement d'abord en prison, et il y a une cagnotte qui a été ouverte, effectivement, pour lui, à Litchi. Et il y a eu, effectivement, en 48 heures, il a reçu 130 000 euros. Mais alors, ce qui s'est passé ensuite, je le rappelle rapidement, c'est que Litchi a bloqué, donc, si vous voulez, la cagnotte, s'est arrêtée, et Litchi a refusé, effectivement, de donner un seul euro à Détinger ou à sa famille, alors que les donateurs avaient fait cette cagnotte pour venir en aide à Christophe Détinger, qui avait évidemment perdu son boulot, etc. Et de ce point de vue, comme dit très bien Régis de Castelnau, notre ami, l'avocat Régis de Castelnau, il y a eu quand même abus de confiance. L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, etc. L'abus de confiance est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Donc, Litchi dit « oui, mais nous, on ne l'a pas détourné, on l'a bloqué ». Sauf que, est-ce qu'ils ont le droit de bloquer ? Et alors, il s'est ajouté autre chose après. Eh bien, des donateurs ont été convoqués, non pas, attention, à titre pour être suivi, à titre d'accusé, mais à titre de témoin. On veut savoir ce qui s'est passé. Donc, Litchi a donné, et c'est son droit, a donné à la police les noms des 8000 donateurs. Et là, ça a provoqué énormément de réactions, dont notamment Jeanne, qui nous a écrit à Sud Radio et qui dit ceci. « Bonjour, dit, c'est la parole de Jeanne, je n'ai confiance en personne aujourd'hui. Je ne divulguerai certainement pas mon identité. Qui la cherche si cela les amuse. La convocation a été envoyée par mail groupé par la BRDA de Paris. Cela veut donc dire qu'ils n'ont pas nos coordonnées réelles. Cette démarche me choque profondément. Je suis outré et très en colère. De quoi se mêle-t-il ? Je donne mon argent à qui je veux quand une cagnotte est organisée. Aucune explication n'est nécessaire. Si je me sens floué par Litchi, Litchi c'est l'organisme qui recueille les cagnottes, les donations, je n'ai pas besoin, donc, dit-elle, que l'on m'explique la procédure à suivre. En réalité, vous le savez déjà, ils veulent constituer des fichiers des opposants politiques. Cela relève de méthodes totalitaires, dit Jeanne. Effectivement, on peut en discuter. Il n'empêche que cette histoire de cagnotte faite pour Christophe Détinger, bloquée au bout de 48 heures, et qu'aujourd'hui on donne tous les noms des donateurs, même si c'est uniquement en tant que témoin, ça laisse quand même très dubitatif. Où va-t-on avec ça ? Et si moi et vous, auditeurs du Sud-Ouest, vous avez envie de donner pour telle ou telle cause, ça veut dire qu'automatiquement, on va le savoir, il y a là un problème qui est posé, qui n'est vraiment pas résolu et qui est assez grave. Et on espère en tout cas que la lumière sera faite sur les agissements des organisateurs, enfin des déposants de la cagnotte et de la police. Qu'est-ce qui se passe exactement quand je veux donner à quelqu'un ou à une cause ou à une personne ? L'affaire n'est pas tranchée et il serait intéressant qu'elle le soit assez vite.
Un acharnement sur Détinger, c'est le commentaire de Pat qui nous suit en vidéo sur Facebook Live.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
J'aime chanter mon beau pays des Landes. J'aime écouter le chant de ses forêts. J'aime fouler le sable de sa lande.
André Dassary, eh oui, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. André Dassary a eu son heure de gloire dans les années 50 et 60. Et voilà. Et pourquoi on parle des Landes et du beau pays des Landes, effectivement? Eh bien, parce qu'on a trouvé comment combattre la pollution. Eh bien, je vais vous dire, à part des dromadaires. Oui, Dino, le dromadaire, il est dans les Landes. Eh bien, il dépollue les plages et il ramasse les déchets. Absolument. Il a fait venir, d'abord c'était venu d'Égypte, ces dromadaires, etc. Et puis, formidable, on a constaté qu'ils étaient vraiment alors écolo-compatibles. Ils ne boivent que 20 litres par jour et sont très intelligents. Cette vache du désert, c'est l'avenir. Et voilà, et aujourd'hui, on les a consacrés à nettoyer le littoral landais où s'écoule chaque jour, par, excusez du peu, 13 700 mètres cubes de déchets. Donc, ils sont très, très bien. Voilà, ils passent, ils ramassent tout ça. Ils font un tri mutuel. Ils sont parfaits. Eh bien, les apportent, c'est très simple. Dino est devenu un animateur écolo. Dino ramasse les déchets. Et ben voilà. Aujourd'hui, l'hebdomadaire, le dromadaire, c'est l'avenir de l'homme. En tout cas, c'est la défense contre le pollueur.
Et c'est plus original que les moutons qui font de l'éco-pâturage dans certaines communes. Sud Radio, midi 39, Berkoff dans tous ses états jusqu'à 13h. Dans quelques instants, André reçoit Christian Chatillon, journaliste, auteur de Relations Corse, politique et voyou, intérêts croisés, destin tragique, aux éditions L'Artilleur. A tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et si je vous dis Borsalino, si je vous dis French Connection, si je vous dis Marc-Anthony, si je vous dis Charles Pasqua, Venturi, Marcel Franchisi, Fratoni, La Brise de Mer, Le Rulle, alors vous brûlez, vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de la Corse et on va en parler.
Nous sommes avec l'invité de Berkoff dans tous ses états, Christian Chatillon, journaliste, auteur de Relations Corse, politique et voyou, intérêts croisés, destin tragique. C'est aux éditions L'Artilleur.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le face-à-face.
Alors Christian Chatillon, il n'y va pas de vin morte, non. Il n'y va pas de plume morte non plus, si encore on peut parler de plume au temps de l'ordinateur. Parce que sa couverture, c'est quoi? C'est l'île de beauté, bien sûr, bleu, blanc, rouge, et deux Kalachnikov croisés. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Mais c'est un bouquin, moi je veux dire que je le recommande, parce qu'il se lit comme un roman policier, et ça n'a rien de romanesque, puisque tout est vrai, tout est raconté, effectivement, sur cette extraordinaire tradition, à la fois de flics, de voyous, d'aventuriers, d'hommes d'honneur, d'hommes de principe, qui depuis, et il remonte, c'est ça qui est très 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 intéressant, il remonte au Marseille d'avant-guerre, parce que chacun sait que Marseille, c'est la porte en haut à gauche, hein, quand on quitte la Corse, c'est Marseille.
Il y a un blanc.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y avait un blanc à l'antenne, je crois qu'on est de nouveau à l'antenne, André.
On est de nouveau à l'antenne, tout va bien. Bon, parce qu'il y a eu un petit problème, alors écoutez, on continue. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, parce que j'ai vu ça s'agiter dans le box des réalisateurs. Je répète, donc, et je recommence, Marseille de l'avant à l'après-guerre, les années 40, les années 70, évidemment, le pouvoir, le sac, etc. Et puis, les années 80-2000. Christian Chatillon, au fond, dans toutes les aventures que vous racontez, il y en a vraiment des rocambolesques, c'était tout à fait amusant et même voire passionnant à lire. Qu'est-ce qui est le ou les liens dominateurs? Quels sont les liens les plus grands communs dénominateurs, je dirais?
La misère.
La misère.
La misère. Des Corses qui se sont, pour la plupart, si on remonte dans le temps, extrêmement bien battus dans les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ils ont été beaucoup dans la résistance. Ils ont été aussi dans la collaboration.
Il y en a eu. Il y en a eu.
Carbone et Spirito.
Il y en a eu.
Ouais.
Mais sur le continent, il y a eu beaucoup de résistants à la résistance.
Ouais.
Qui ensuite ont été aussi blanchis. Mmh. Et donc, quand vous êtes dans un petit village, quand vous êtes à flanc de montagne, en Balagne ou ailleurs, et que vous voulez devenir, car c'est toujours l'ultime but du voyou, devenir quelqu'un, devenir un monsieur. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Jorenouch, qui va mourir dans son lit, ce qui est assez rare pour un truand, après avoir, comme on dit, bien servi l'État. et dans un quartier, évidemment, chic de Paris, à côté de l'école militaire.
Alors racontez-nous Giorenucci, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Alors Giorenucci avait d'abord deux frères qui étaient à Marseille, patrons de cercles de jeu, parce qu'ils étaient les agents électoraux d'une sommité locale qui était le président de la Chambre, Fernand Buisson.
Oui.
Donc Jo vient, comme beaucoup de Corses quand ils arrivent sur le continent et principalement à Marseille, il vient avec une lettre de recommandation et toujours il se met auprès de ses frères et très vite il comprend que la politique c'est un moyen absolument sûr de pouvoir éventuellement être couvert pour des activités un peu plus parallèles. Et Renucci, d'ailleurs, en homme intelligent qu'il est, parce qu'un voyou, qu'il soit corse, qu'il soit nantais ou strasbourgeois, s'il n'est pas intelligent, il ne fait pas de vieux os. Il ne fait pas de vieux os, nous sommes d'accord. Donc lui, il a cette capacité à rebondir et à créer des entreprises d'agrumes, mais aussi la Cidale, qui à Marseille était une maison d'édition de disques dans laquelle ont enregistré Andrex, qui était la coqueluche de la Canebière, mais aussi Luis Mariano, Annie Cordy.
Ah oui, d'ailleurs, chanteur très connu. Et en fait, c'est intéressant, c'est toujours un miroir qui réfléchit, Giorenucci, mais les autres, en fait, il y a eu deux pôles importants, les trafics, bien sûr, les trafics de drogue, la fameuse French Connection, qui a suscité tout ce qu'on sait. Et d'ailleurs, Borsalino, ça vient un peu de cette époque-là, hein, avec oui. Delon et Belmondo. Et puis, il y a eu aussi la politique derrière. Et puis, les jeux. Vous parlez très, très, très bien dans votre livre, d'ailleurs. Et en fait, la période de drogue a été très importante, a duré longtemps, la période de trafic.
Alors, la période de drogue, elle avait commencé avant-guerre, avec Carbone.
Oui.
Puisqu'il y avait l'Indochine, il y avait les Corses étaient très implantés sur Saïgon. Il y avait aussi le trafic des piastres. Il y avait les maisons closes, le parc aux buffles, célèbre établissement. Et donc, tout ça fait que Renucci, à un moment donné, est devenu la tête de pont en France de la mafia italo-américaine, car il a compris qu'il fallait s'associer. Et il était cousin, il était en tout cas parent de Carbone. Et donc, après la guerre, il a repris les activités en association avec Lucky Luciano.
Oui, le célèbre bandit new-yorkais, le grand mafieux new-yorkais.
Le grand mafieux, mais qui avait servi pour le débarquement en Sicile.
C'est vrai.
Qui avait été remercié et sorti de son pénitencier. Alors quand même, on lui avait fait quitter les États-Unis pour s'installer à Naples, et lui, il avait compris qu'il y avait effectivement
connexion.
Faire.
Alors, il y a eu cette période tout à fait extraordinaire, et puis, vous parlez aussi, entre autres, enfin, il y a beaucoup de choses dans votre livre, encore une fois, je renvoie à votre livre, qu'il est passionnant de lire, et il y avait le jeu. Alors, le jeu est arrivé après ou en même temps, pratiquement, tout ça?
Alors,
était...
non, le jeu est arrivé au lendemain de la libération.
D'accord.
Car vous avez cité tout à l'heure Marcel Franchisi, on pourrait citer André Hanni, on pourrait citer Auroul Jandot, Fratoni,
Fratoni,
on veut être Fratone, dans la couleur locale. Et ces gens-là avaient été résistants, mais résistants pas de 1944, mais résistants dès le départ.
Oui, il faut se rappeler, là,
François Marcantonne aussi, qui était à l'arsenal de Toulon, qui a participé au sabordage de la flotte en 1942, sous les ordres de l'amiral Laborde, qui a été ensuite condamné pour haute trahison au régime de Vichy.
Oui, absolument.
Donc, tout ça
fait
que...
Oui, il faut rappeler que ces gens-là étaient résistants dès le début.
Mais il faut aussi rappeler, ça j'y tenais beaucoup à l'écrire, c'est que pendant que souvent les Juifs étaient sur le continent pourchassés et livrés à Drancy, les Corses étaient des justes pour eux. Ils
très
trouvaient
juste.
Protection, secours. Et ça, on s'est très empressé de l'oublier à la fin de la
et
guerre.
Vous avez tout à fait raison, Christian Châtillon, on va rappeler qu'en fait, entre 40 et 44, pas un seul juif vivant en Corse n'a été déporté ou n'a été livré.
C'est très important, et de dire aussi que la Corse a été le premier territoire libéré français.
Exact. Et alors, Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que, en fait, ils s'entraidaient entre eux? C'est-à-dire, le fait d'être corse dans le milieu, jouer ou pas du tout?
Alors, il y a une spécificité corse. Vous avez très souvent dans la même famille un voyou, un préfet, un patron des stupes ou d'autres services.
Dans la même famille.
Dans la même famille. Oui. Et tout ce petit monde-là, lorsqu'il est à Porto-Vec, lorsqu'il est, peu importe, on est un ami. Alors, je dis bien dans le livre que pour un continental, pour un pinsout, c'est que je suis, le Corse ne vient pas spontanément à vous, mais il est chaleureux, il est hospitalier et il est à l'image de Callisthée, qui, en grec ancien, voulait dire l'île de beauté.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vous ont parlé, ils vous ont reçu, et vous avez pu effectivement extraire, vous aviez écrit un livre avec François-Marc Anthony, bien sûr, entre autres. Et ce qui est encore une fois passionnant, c'est que effectivement tout ce que toi, on ne peut pas ne pas évoquer Charles Pasqua, le SAC, le service d'action civique, etc. Et alors dites-moi, en fait, ça allait des plus hauts personnages de l'État à quelque part aussi la pègre. Enfin, ça...
Vous avez cité Marseille, vous avez cité Renucci, il faut citer les Guérini.
Bien sûr.
Ils sont à l'origine de l'accession du petit Provençal qui va devenir le Provençal et de l'accession au pouvoir de Gaston Defferre,
ouais,
qui ne leur a d'ailleurs pas été très gratifiant
très
des efforts qu'ils ouais avaient faits pour lui.
Ah oui, ce sont eux qui ont vraiment été à la base de...
Et quand ouais la CIA a décidé qu'il fallait débloquer les docks, j'ai un chapitre qui s'est... Bon,
tout je
l'ai mis en latin volontairement parce que dans votre émission précédente, on parlait de professorat et que je suis prof de lettres classiques. Donc, c'était tout simplement, il faut libérer Marseille. Autrefois, on disait il faut détruire Carthage.
Détruire Carthage.
Un certain Caton que vous avez connu.
Absolument. Carthago delenda est.
Eh bien, Massilia liberanda est. Est.
C'est ça. Et non, mais c'est ça qui est passionnant dans ce que vous racontez dans ce livre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ces extraordinaires. En fait, ils dînaient ensemble quelque part, ils se retrouvaient.
Mais
ils,
ce sont deux voilà mondes qui ne devraient jamais se rencontrer,
ouais,
qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui pourtant ont été dans une grande cohabitation. Alors, il faut dire aussi que dans certaines périodes de l'histoire, on a intérêt à prendre du personnel qualifié, si vous
bien
voyez
sûr
ce que je veux dire.
Bien sûr.
Et ça a été le cas également lorsque Gaston Defferre a été pourchassé par l'OS. Eh bien, évidemment,
il
a fait appel.
Corps,
et
sûr
les gardes du corps. Les corps sont très très bons, hein, très doués dans le maniement des armes.
Oui, et puis aussi Hersan, Robert Hersan, l'ancien patron du Figaro. Le papivore, exactement.
Le papivore, qui avait eu une conduite pas très honorable pendant la guerre, mais qui, comme Marc Anthony, disait que la prison, ça favorisait, comme la franc-maçonnerie, les relations.
Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a des camarades de prison, il faut le dire. Non, ce qui est formidable, et en fait, il y avait un code, le code d'honneur existait. On peut ricaner là-dessus, mais ça existait.
Alors, il y avait une parole donnée qui pouvait être par moments un peu à géométrie plus ou moins
variable,
invariable
ouais
ou variable, selon ouais de quel côté on ouais se place. Mais globalement, oui, oui, il y avait des hommes d'honneur. Celui qui avait pris ensuite le roule, quand Jean-Dau Fratoni a
roule,
été
oui
exilé,
nice,
et pour cause en Amérique du Sud, c'est monsieur Strabonchi, le capitaine Strabonchi de Cutoli Corticiano,
ouais,
lui aussi, ouais, qui a fait monter Cassino, qui a été un héros, qui était un homme d'honneur.
C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est cette espèce de formidable. Et d'ailleurs, vous finissez, je veux dire, on va finir là-dessus sur une phrase absolument magnifique. Vous dites que, et vous citez Napoléon Ier, l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Mais votre livre, ce qui est intéressant, c'est, comme disait Aragon, je me permets de citer, c'est un mensonge qui dit la vérité.
Et mais là, merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie. Et je signale simplement que non seulement il faut le lire, mais il y a des anecdotes tout à fait fascinantes, tout à fait passionnantes. Et voilà, j'espère que vraiment, relation corse, et comme disait quelqu'un, l'affaire se corche, chef-lieu Ajaccio, of course.
Merci Christian. Châtillon, on rappelle que vous publiez « Relations Corse politique et voyous, intérêts croisés, destin tragique ». C'est aux éditions L'Artilleur. Merci à vous André. Rendez-vous demain midi pour Berkov dans tous ses états. Une émission à réécouter en podcast sur sudradio.fr et puis en vidéo sur Facebook et YouTube. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit celle qu'on surnomme la papesse de l'édition, Aurélie Valogne, les clés d'une vie de 13 à 14 heures. Bon après-midi sur Sud Radio.